Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Okapi Service en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2026, sous vos applaudissements. Est-ce qu'on peut faire le maximum de bruit? Merci à vous tous qui nous écoutez à travers la République sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Alors avec nos invités, nous allons échanger tout à l'heure sur le féminisme en RDC ainsi que sur la désinformation et stéréotypes de genre. Une émission en partenariat avec la section communication sociale de la MONUSCO, Baloba Kitchek, Bissobasi Telema. Alors pour participer à cette émission, partout où vous êtes à travers la République, écrivez-nous à service@radiookapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Paul Badianyama et Alain Bidoya, Sylvain Baouguere sur la technique. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et merci d'applaudir encore une fois pour vous-même. Bien. Le féminisme en République démocratique du Congo, vous savez, en RDC, la notion de féminisme est mal comprise et rencontre une forte résistance culturelle. Il est souvent perçu, cette notion est souvent perçue comme un concept importé pour détruire la culture africaine. On en parle dans des discours politiques sans réelle mise en œuvre. De nombreuses lois comme celle sur la parité du genre de 2006 et celle de 2016 contre les violences faites aux femmes sont votées, mais il n'y a pas assez d'avancées sur le plan application, faute de sensibilisation et d'inclusion effective. Par ailleurs, les médias reprennent le mot féminisme sans les contextualiser, créant ainsi un choc au niveau de la compréhension. Alors comment promouvoir le féminisme authentique, adapté au contexte congolais, et comment promouvoir l'égalité sans nier les réalités culturelles de notre pays? On en parle avec les intervenantes. Nous avons Madame Esli, voilà, Lotendo, qui est coordonnatrice du mouvement féministe Bissobasi Telema. Madame Esli Lotendo, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Alors, je vais vous poser la question de savoir comment parler du féminisme aujourd'hui à RDC sans créer de rejet. D'abord, c'est quoi le féminisme et comment est-ce qu'on peut arriver à parler de ce concept sans créer le rejet?
Merci beaucoup pour la question. En tout cas, comme vous l'avez dit, je suis Elsie Lotendo. Je voulais juste porter une petite correction. Elsie Lotendo,
paéliste,
coordonnatrice du mouvement féministe Bissobasi Telema. J'aime m'identifier aussi comme féministe parce que je le suis. Alors, comment parler du féminisme sans créer de rejet? Déjà, il faut comprendre le concept du féminisme, en fait, parce que il y a tellement de stéréotypes, tellement de la désinformation derrière ce mot féminisme, en fait. Ce qu'il faut retenir en premier lieu, c'est que le féminisme n'est pas une lutte contre les hommes. En tout cas, j'en suis désolée pour les hommes qui pensent que les féministes luttent contre les hommes. Notre combat n'est pas orienté vers les hommes. Notre combat est orienté vers les inégalités, les injustices, le viol, les violences auxquelles les femmes sont victimes, en fait, au quotidien. Mais ce qu'il faut retenir, il faut d'abord comprendre le concept, parce que beaucoup pensent que le féminisme est un concept de l'Occident, donc il est venu ici en Afrique pour détruire nos traditions, nos cultures, tout ça, ce qui n'est même pas le cas, en fait. Mais aussi, je comprends que dans la société actuelle, nous sommes en rupture, de notre histoire, au fait, de ce qui a existé avant la colonisation, de notre société précoloniale, au fait. Il faut savoir qu'avant la colonisation, par exemple, on était dans une société de complémentarité. Pour ne pas dire que ce n'était pas une société matriarcale, ou bien une société patriarcale. On était dans une société de complémentarité où l'homme et la femme avaient sa place dans la société. Dans nos sociétés anciennes, par exemple, les femmes On connaît tous les femmes reines qui ont existé avant la colonisation. Par exemple, si je prends le contexte de la RDC dans nos sociétés, dans le royaume Kuba, Lunda ou Luba, la reine mère, par exemple, la reine, la mère du roi, avait un mot, c'est elle qui était la première conseillère de son fils. Donc la mère du roi était la première conseillère de son fils. Donc c'est que la mère devait dire, le roi devait aussi exécuter. Il y avait dans le royaume Luba, les femmes qui étaient là, qui étaient investies par exemple de pouvoir politique et spirituel, qui devaient jouer le rôle d'intermédiaire, qui devaient parler au nom de chef à la population et prendre ce qui était de la population pour ramener ça auprès de chef. Donc la place de la femme était déjà là. La femme était dans la société, dans la sphère politique, dans le côté spiritualité ou religion, si je peux dire, dans la communauté, pour la question de l'héritage, par exemple. Les terres, les femmes étaient là, au champ, ils avaient des champs, ils pouvaient aller cultiver, ils avaient tout en fait. Côté économiquement, les femmes étaient aussi autonomes, elles nourrissaient les familles. Mais avec l'avènement de la colonisation, le système a été renversé. Le système occidental nous a ramené le système patriarcat. Ils ont mis de côté les femmes. Ils ont exclu les femmes de la société en fait. Ils ont préféré éduquer, parce que comme s'il n'y avait pas l'éducation, il y avait la civilisation de notre manière en tant qu'Africaine, mais ils nous ont ramené la civilisation occidentale. Ils ont pris les hommes comme si c'est les hommes qui c'est les hommes qui doivent aller profiter de l'éducation, aller à l'école, être le chef dans la société, c'est eux qui doivent diriger dans la politique, tout ça. C'est comme ça que le système a été renversé. Et maintenir la femme dans le foyer pour s'occuper que de son mari et des enfants, rien d'autre. C'est là où il faut d'abord comprendre. Pour ceux, parce que j'ai suivi la vidéo tout à l'heure, on a vu des réponses des gens. Donc on peut directement comprendre que le système patriarcal est tellement ancré dans notre tête, dans notre cerveau, point qu'on oublie notre passé, on oublie ce qu'on était avant la colonisation. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui fait assez que les gens, comment parler du féminisme sans créer un rejet? Oui. Il faut d'abord que les gens comprennent le concept du féminisme. Il faut faire comprendre aux gens, que les gens comprennent d'où, comment étaient nos sociétés avant, est-ce que la femme était dans la société. Il faut que nos sociétés comprennent cette histoire. Il faut que nos filles, nos mères, nos frères, nos pères comprennent l'histoire ancienne, en fait, pour qu'elles comprennent que la femme a toujours eu une place dans la société.
Madame, ici, en résumé, qu'est-ce qu'on retient par rapport au féminisme? C'est quoi le féminisme?
Justement, ce qu'on peut retenir du féminisme, comme j'ai dit dans mon introduction, ce n'est pas une lutte contre les hommes, ce n'est pas une lutte de renversement du pouvoir patriarcat pour remplacer du pouvoir matriarcat, mais c'est une lutte pour l'égalité des genres, pour la justice, pour la dignité, le respect de la femme. Donc, il faut comprendre que... Merci. Il faut comprendre que quand une culture, une tradition qui ne respecte pas une femme, qui ne respecte pas la dignité de la femme, ce n'est pas une tradition à respecter en fait, pour moi en tout cas. Parce qu'une tradition qu'il faut, doit respecter la femme. Nous sommes aujourd'hui, nous voyons combien est-ce que les femmes se font violenter, même sur l'espace numérique, dans nos sociétés, on le voit. Mais beaucoup des hommes ne réagissent pas parce qu'eux-mêmes aussi sont victimes du système patriarcat. Parce qu'ils pensent que c'est comme ça que doit être nos sociétés. Donc, il faut commencer par ça, par des bases, que les gens comprennent c'est à quoi nous luttons, en fait.
D'accord. Merci, Madame Essie Lotendo. On va donner la parole à Madame Léa Ochudi, qui est chargée de programme au sein de Balobaki.check. Et elle va nous parler du féminisme en RDC, les défis culturels, politiques et médiatiques. Bonjour, Madame Léa.
Bonjour, Jody.
Vous avez la parole.
Merci beaucoup pour la parole accordée. Je commencerai d'abord par dire qu'à notre niveau, parce que nous sommes en train de parler du féminisme en RDC, de défis tant sur le plan culturel, politique et médiatique, mais nous, Balobaki Tchèque, on a préféré faire une analyse des dynamiques de la désinformation sur les réseaux sociaux, la désinformation du féminisme. Vous allez constater avec nous ces derniers temps que depuis quelques années, quand on annonce le mois de la femme, parce qu'avant c'était le jour de la femme, le 8 mars, et après on est passé au mois de la femme. Déjà à l'annonce, vous verrez que la première réaction c'est « Ah, vous n'avez qu'un seul jour, vous n'avez qu'un seul mois, nous c'est le reste de l'année. »
Ouais, et puis vous allez porter les pagnes et puis...
Voilà, vous allez porter les pagnes, vous allez boire, vous allez manger et ça s'arrête là. C'est pourquoi vous verrez que non seulement nous célébrons le mois des droits dédiés à la femme, mais aussi vous allez voir sur les réseaux sociaux, il y a cette désinformation aussi qui prend de l'ampleur. Parce qu'on voit la femme, elle est en train de prendre la parole, la femme doit parler en ce mois, et c'est en ce mois où on fait un effort pour faire taire la femme. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit simplement, je crois que ma prédécesseure l'a dit ici, on essaye de voir que le féminisme égale venir détruire les valeurs ou venir détruire tout ce que nous avons sur le plan sociologique, surtout africain. Parce que déjà, nous savons à la base, quand la fille grandit, on lui dit, comme fille, tu n'as que trois qualités. Je ne sais pas si vous le savez ici, mais je crois, en sociologie africaine, c'est ce qu'on nous a appris.
Oui.
La femme n'a que trois qualités, la fille. La première qualité, c'est la féminité, à ne pas confondre au féminisme. La deuxième qualité, c'est la virginité. Et la troisième qualité, c'est la maternité. Donc, on limite la femme à ça. On dit, voilà, telles sont ces trois qualités. Et vous allez voir dans ces trois qualités, rien à voir avec son cerveau. C'est-à-dire, on lui dit, si tu es femme, vierge, maternité, ça te suffit.
C'est comme si elle n'a pas de tête.
Elle n'a pas de tête, or, jusqu'à preuve du contraire, le cerveau n'a jamais eu de sexe. Le cerveau, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, on réfléchit tous. Et même sur le plan, je ne sais pas s'il y a des médecins ici, si on doit faire sortir le cerveau de l'homme et de la femme, on met là-bas, on demande à quelqu'un de choisir le cerveau de l'homme ou de la femme, je ne pense pas que même un médecin saura le faire. Donc, nous sommes en train de parler du féminisme en ce mois dédié à la femme. Et nous disons aussi, nous insistons pour dire que actuellement, nous ne devons pas considérer la désinformation du féminisme comme juste des fausses informations. C'est vraiment une arme de destruction. On veut faire taire la femme à tout prix. Parce que nous, Baloba, qui nous sommes sur les réseaux sociaux, nous faisons du monitoring, c'est-à-dire nous allons voir même dans les commentaires. Vous allez voir qu'il y a des internautes...
En passant, Madame Ange a parlé, elle a fait allusion à un pasteur qui aurait dit quelque chose...
À un chanteur gospel.
Qui aurait choqué, on ne sait pas, qu'est-ce qu'il avait dit exactement.
À un chanteur gospel, c'était... rapport à la chrétienté.
La remise en question du féminisme.
C'est comme s'il y avait une incompatibilité. Tu ne peux pas aujourd'hui dire que tu es femme chrétienne, ou tu es une femme, je ne sais pas, mariée, et tu soutiens le féminisme. Donc, il y a une incompatibilité. Alors, nous, on l'a vécu, on l'a vu en 2023. Vous avez vu vous-même qu'il y a eu des candidates, femmes. Elles ont osé, elles se sont dit, c'est leur droit, je vais postuler à la candidature, par exemple, pour être président de la République. Mais quelqu'un qui postule, qui donne son avis, son point de vue, au lieu de critiquer les idées... Non, on lui rappelle d'abord que ta place, c'est à la cuisine. Imaginez en plein 21e siècle, on continue à rappeler à la femme qu'elle n'a pas de place à la politique, jusqu'à dire, quand on vous dit toujours que les femmes sont sensibles, elles pensent avec leur cœur, au lieu de penser avec leur cerveau, donc elles n'ont pas de place dans la politique. Et c'est ce qui nous amène à l'autocensure. Combien de femmes ont décidé de quitter les réseaux sociaux? Combien de femmes ont décidé de ne plus s'exprimer? Pourquoi? Parce que simplement, on lui a dit, tu n'as pas de place. Et quand tu oses parler féministe, on dit, non, c'est... Il y a même un autre internaute qui a osé dire à une dame que c'est le célibat qui la rend frustrée.
Ah ouais?
Ouais. Donc,
il connaît bien sa vie?
Je ne sais pas, mais au lieu de critiquer
ses idées
et sa candidature, parce qu'elle était candidate à la députation nationale, on lui dit non, elle est frustrée juste parce qu'elle est célibataire. Donc, voyez comment on essaie de réduire la femme. Et si vous n'avez pas un mental fort, si vous n'avez pas, Si vous ne pouvez pas tenir dans un monde aussi hostile, vous allez quitter. Parce que vous allez vous dire, premièrement, je dois me protéger. Je dois protéger ma santé mentale. Je dois protéger ma réputation. Parce que quand on vous touche, par exemple, sur les réseaux sociaux, avec cet harcèlement, hein, cet cyberharcèlement que nous sommes en train de vivre, et c'est toute cette désinformation, derrière vous, vous avez des proches, vous avez une vie professionnelle à protéger, une famille.
Alors, vaut mieux quitter les réseaux sociaux
vous dites,
et fermer les comptes.
Voilà, carrément. C'est pourquoi nous nous disons l'autocensure, c'est quelque chose à petit feu qui est en train de mettre à l'écart les femmes compétentes, les femmes qui ont des idées, des femmes. Aujourd'hui, nous avons besoin d'aide dans la société, mais elles se sont dit, je veux me protéger mentalement, physiquement, moralement, et je quitte les débats publics. Mmh. Donc, c'est quelque part, c'est un peu ça l'objectif, donc l'objectif de la désinformation genrée.
Merci beaucoup, Madame Léa Ochoudi. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, nous parlons du féminisme en RDC, défi politique, culturel et médiatique. Je vais donner la parole à présent à Madame Charlotte Sylvie Songhe-Prisseau. Elle est coordonnatrice des programmes droits des femmes et genre au bureau conjoint au bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Madame Charlotte Sylvie Songhe, la question que je vous adresse est de savoir nous parlons que, voilà, comment est-ce que le bureau conjoint des Nations Unies peut mener l'éducation aux droits humains comme levier pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
Merci pour la parole et bonjour à tous.
Bonjour.
Et aux auditeurs qui nous suivent. Alors, vous savez que nous avons une Déclaration universelle des droits de l'homme. Et les dispositions de cette déclaration ont été reprises dans la constitution de la RDC. Et le tout premier article nous rappelle que nous sommes tous nés libres et égaux en dignité et en droit. C'est la première chose que nous voulons faire connaître aux gens. Quand on parle de l'éducation, il faut donner la bonne information. On ne peut pas façonner les gens avec la désinformation. On ne peut pas façonner les gens en leur cachant la vérité. Comme mes sœurs l'ont dit, la désinformation sur le féminisme n'aide pas la société. Parce que nous tous, nous naissons libres et égaux en dignité et en droit. Et c'est ce que mon bureau fait. Nous travaillons pour promouvoir les droits de la personne humaine. Nous travaillons pour protéger les droits de la personne humaine. Et s'il arrive que nous parlons de féminisme, qui est un mouvement qui prône l'égalité de droits entre les hommes et les femmes, c'est parce que tous nous naissons libres et égaux en dignité et en droit. Et que dans le constat qui a été fait, comme nous tous nous le savons, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas accessibles à la femme. Il y a beaucoup d'opportunités qui lui sont refusées à cause de tout ce que l'on vient de voir qui concerne la culture, l'idéologie, la sociologie et consorts. Et donc, nous travaillons pour faire connaître aux gens que la femme a les mêmes droits que l'homme et que l'homme a les mêmes droits que la femme. Parce que dans certaines situations, vous trouverez des femmes qui sont dans des positions élevées. Et les hommes qui sont subalternes, comment ils vont se sentir? Vous voyez? Ils voudraient bien que leur chef, qui est une femme, puisse considérer leur point de vue, n'est-ce pas? C'est la même chose pour la femme. Elle aimerait que son point de vue soit considéré. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que puisque la société commence dans la famille est la cellule de la société, c'est dans la famille que cette éducation doit commencer. Une maman avec ses enfants doit se rappeler que sa fille est un être humain. Sa fille, quand elle naît, elle doit naître avec tout l'amour, avec toute la dignité qui est reconnue à l'être humain. Et ainsi, laisser que les enfants évoluent selon les opportunités naturelles qui leur sont données. Il y a certains enfants qui naissent, elles sont des filles, mais elles sont très fortes physiquement. Elles sont très fortes. Elles ne font pas le karaté, elles ne font pas la gym, mais naturellement, elles ont sa force. Et il y a des garçons qui naissent et qui sont de vrais paresseux. Très paresseux. Il ne peut pas faire d'efforts, mais il est garçon. Vous voyez? Donc, ce que nous voulons faire comprendre aux gens, c'est que le droit appartient à tous les êtres humains qui vivent sur la terre. Tant que Dieu a bien voulu que vous soyez de ce monde, vous devez comprendre que la personne qui est à côté de vous, qu'elle soit homme ou femme, a les mêmes droits que vous. Et vous devez travailler de manière à ce que, en luttant pour vos besoins, que vous puissiez respecter les droits de l'autre. Donc, voilà ce que mon bureau fait pour cette promotion des droits de la personne humaine, sachant que la femme est un être humain. Donc, un être qui a des droits qui sont universels, qui sont indivisibles, qui sont inhérents à la personne humaine, qui sont interdépendants.
Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, merci Madame Charlotte Sylvie Songhe Prisco pour votre intervention. Alors nous parlons du féminisme en RDC, les défis politiques, culturels et médiatiques. On va recueillir les questions dans la salle. Leshoala Sa va circuler avec son micro. Alors qui veut se jeter à l'eau, le premier ou la première. Voilà, rapidement le micro. Lesh, est-ce qu'on peut faire circuler rapidement le micro? On va recueillir 5 questions. Donc on va prendre des questions par série. La première série des 5 questions et puis on va enchaîner ensuite avec une autre série. Lèche, rapido, micro par ici. On commence. Voilà, on commence avec madame qui est là, à côté de vous, voilà. Merci de vous donner votre nom, qualité et puis poser votre question.
Bonjour à tous. Merci pour la parole accordée. C'est Maître Jessica Iragi, du barreau du Sud Kivu. Pour moi, comme question que j'ai à demander aux panélistes, comment renforcer les synergies, les ONG et les institutions pour le mouvement féministe pour un impact plus durable dans notre pays?
Bien, c'est la seule question.
Oui.
D'accord, merci madame. Le suivant, monsieur.
Merci pour la parole. Je suis Franklin Sama Didon, secrétaire général de la Fondation Sarah Bantimbo Didon Franklin, Sabadif en sigle, et membre aussi de Pamoja Peace. Ma question, je commence d'abord par féliciter les panélistes par rapport à leurs différentes interventions très riches et fondées également. Alors, je voudrais poser ma question. Tout le monde, toutes les intervenantes pourraient répondre selon ce qu'ils pouvaient nécessairement recevoir. Je pars par un aspect. Quand nous passons nos concours d'embauche ou que ce soit, nous constatons toujours que la plupart des dames demandent un quota pour la femme, au lieu de se mesurer comme les hommes. Et à votre niveau, étant de leader, quelle lecture ferez-vous face à cette situation? Parce qu'on parle sur l'égalité des droits. Mais lors des concours, dans certains endroits, on constate que une frange des dames demande les quotas. Merci.
Merci. On parle aussi de la discrimination positive. Hein. Voilà, les panélistes vont revenir là-dessus. Voilà, on va traverser au milieu. On prend deux personnes au milieu et ensuite on prend la dernière question, madame au fond. Bonjour.
Oui, bonjour. Je suis bienvenue, Lundou, la juriste de formation, vice-coordonnatrice du département de droits de femmes à l'AEC. Ma question s'adresse particulièrement à madame Essi, qui a parlé du concept féminisme. Vous aviez dit que dans la société précoloniale, déjà, c'était une société de complémentarité. Et puis, vous avez donné un exemple du royaume Cuba, où la mère était la première conseillère de son fils. J'aimerais savoir si il y avait déjà de l'égalité depuis. Pourquoi la mère ne pouvait pas être la reine? Pourquoi elle devrait juste se contenter d'être une conseillère? Or, aujourd'hui, on parle de la prise des décisions. Une femme peut diriger, une femme peut conseiller. Pourquoi déjà la princesse ne devenait pas reine pour dirigeant royaume, mais on consacrait les pouvoirs au fils et la mère était revue en second lieu comme conseillère.
Merci madame pour votre question. Madame, derrière vous, voilà. Bonjour.
Bonjour à tous. Moi, c'est Kitian Zumba, je suis étudiante en Master D, Communication, Éducation et Développement. Je suis experte en communication sociale. Alors moi, je dirais, je voulais poser à aux dames qui sont devant, je voulais dire que dans la société congolaise, certaines expressions populaires influencent fortement le mentalité et le comportement sociaux. Parmi elles, nous avons l'expression « Ansi Atungaka Mbokate ». Étant femme, que pensez-vous de cette expression? Merci beaucoup.
Basi Batongaka Mbokate, voilà. Merci pour la question. On prend la dernière question de la première série. Voilà, prenez madame qui est de l'autre côté. Patientez, on va revenir.
Votre tour va arriver. Bonjour. Merci beaucoup, c'est Laetitia Kabbala. Je suis journaliste et membre du collectif des fact-checkers. Alors ma question, elle s'adresse quand même à toutes les intervenantes. J'aimerais savoir, aujourd'hui, il y a pas mal de femmes quand même qui continuent d'hésiter, de prendre parole, que ce soit dans des espaces publics, même en sachant qu'il y a pas mal d'obstacles. Alors, étant femme, étant celle qui milite pour la voix de la femme, comment est-ce que vous pensez que cette dernière peut surmonter ces obstacles ainsi que toutes ces peurs, s'il vous plaît?
Merci madame, merci pour toutes ces questions. Est-ce qu'on peut les encourager par nos applaudissements? Bien, les panélistes vont répondre à cette première série et puis on va revenir pour prendre la deuxième série des questions. Madame Essi, vous avez la parole. La première question de Madame Iragi, elle veut savoir comment les femmes peuvent se mettre ensemble, créer une synergie pour un impact positif sur le terrain par rapport à la lutte.
Merci, M. Jeudi, pour la parole. Pour la première question, pour le synergie, il existe autant de synergies. Il y a des synergies des femmes qui sont ensemble, qui se mettent déjà ensemble pour lutter, pour faire vulgariser les questions de droits des femmes, la lutte pour la justice, l'égalité. Il y en a déjà tellement plein, en fait. Il y a beaucoup il y a des ligues des femmes, des synergies. Il y en a beaucoup en tout cas. Ce qui est important, c'est de se renseigner sur ça et vous en trouverez autant en fait. Il y en a, ça existe déjà. Il y en a beaucoup. Question sur la question dans les embauches, pendant le concours.
Oui.
Comment est-ce que
les femmes demandent toujours un quota.
Un quota, tout ça.
Quoi. Voilà.
Dans le monde professionnel, en tout cas, là, je ne sais pas trop. Mais c'est que je sais que beaucoup d'entreprises ou des organisations encouragent la candidature de femmes. C'est juste une question de lutter contre toutes ces inégalités. Même dans le monde professionnel, il y en a autant. où les femmes, il y a des fonctions, parfois on dit que les hommes c'est moi qui doivent occuper, mais quand on lance parfois des concours comme ça, on essaie d'encourager la candidature de femmes pour montrer aux femmes qu'elles aussi, elles peuvent en fait. Elles peuvent prendre, jouer telle fonction, tel rôle dans la société, dans une entreprise. Donc je pense que c'est une stratégie d'encourager les femmes pour lutter contre les inégalités dans la société. Ce n'a rien à voir, ce n'est pas une question de discrimination à l'égard des hommes, mais c'est juste une stratégie pour parvenir à l'égalité dans le milieu professionnel aussi.
Et d'ailleurs, on dit aussi que les candidatures féminines sont
encouragées,
sont fortement encouragées.
C'est juste ça, ce n'est pas pour discriminer les hommes, parce que ça fait des siècles que les hommes occupent beaucoup de postes, beaucoup de fonctions clés. Donc, si on veut parvenir à cette égalité dans la société, il faut encourager les candidatures de femmes. Donc, c'est juste ça, en fait.
Madame, bienvenue, a posé sa question par rapport au royaume. Pourquoi mère conseille son fils, pourquoi elle-même, elle n'occupe pas le...
Je n'ai pas dit qu'avant la colonisation, il n'a pas existé de règne. Il a existé des règnes. Il y a eu des règnes en Afrique, dans beaucoup de royaumes, il y a eu des règnes qui ont dirigé, des femmes qui ont dirigé. Donc, j'ai donné un exemple et j'ai essayé un peu de contextualiser pour montrer le rôle, au fait, de la femme aussi dans la politique ancienne. Comment est-ce que la femme occupait déjà une place importante? Qu'elle soit reine ou pas reine, elle avait déjà une place importante dans la politique ancienne. Donc c'était juste un exemple à donner en fait. Ce n'était pas pour dire que la femme s'est limitée à être conseillère. Il y a eu des reines, il y a eu des guerrières, par exemple des guerrières, il y a eu des conseillères dans la spiritualité, la femme était là. C'est pour montrer que la femme était déjà là en fait, dans la société ancienne.
On parlait même des Amazones, je crois des Dahomey, etc. Donc voilà, merci beaucoup. Quelqu'un a posé une question là-bas. C'était un complément. D'accord, merci beaucoup pour cette intervention. Madame Léa Ochoudi, vous avez la parole.
Je voulais, revenir à une dernière question.
Allez-y,
aussi,
madame.
Que j'ai trouvée aussi importante sur, étant une femme, comment aider les autres femmes par rapport à celles qui n'arrivent pas à s'exprimer. Donc, il faut comprendre, la première chose, il faut comprendre que ce n'est pas d'abord la faute à ces femmes-là, c'est le système patriarcat qui a montré à incliquer ça à la femme que la femme ne doit pas prendre la parole là où il y a les hommes. Ce qui fait que ça rendit ces femmes-là, c'est devenu comme un handicap pour ces femmes-là. Donc, il faut des formations pour ces femmes-là, des formations sur l'estime de soi, la confiance en soi, pour qu'elles comprennent qu'elles aussi, elles ont de quoi apporter à la société, elles ont de quoi dire aussi dans une société devant les autres. C'est ce que je voulais ajouter. Merci.
Merci, Madame Léa Ochoudi.
Merci pour la parole. Je voudrais revenir sur le quota, parce qu'entendre la question, l'intervenant voulait savoir pourquoi certaines structures féminines réclament ce quota-là. Donc, par exemple, je crois pendant les élections où il y a des structures qui disent non, nous on veut autant présenter autant de candidats, voilà. Moi, je pense que ce n'est pas une faiblesse pour ces femmes-là. C'est aussi suite à tout ce qu'on a vécu déjà dans ce pays, où longtemps la femme a été marginalisée, mise de côté, écartée du débat public. Et alors, avec ça, on commence à voir, parce qu'on nous dit que nous sommes à plus de 52% de la population, même à l'électorat. Mais qu'est-ce qui fait que quand nous allons pour, nous battons campagne pour les hommes, eux ils passent, et nous nous restons avec des postes tels que protocole, chargé des mobilisations, et on s'arrête là. Donc, je crois, secrétaire, et quand les grandes décisions doivent aller se prendre le soir, la nuit, on nous écarte, non, les femmes à 7 heures, il vous faut des autorisations, tout et tout. Voilà. Donc, je crois que ce n'est pas une faiblesse, c'est l'une des stratégies pour essayer toujours d'inclure la femme dans les débats publics. Alors, l'expression congolaise, moi si atunga kambo kate.
Surtout ça.
Un discours de haine, un discours injurieux.
Ça veut dire que les femmes ne peuvent pas construire la nation, c'est ça?
Non, la femme ne peut pas construire. Moi, j'ai toujours voulu, je me dis, est-ce que si on pouvait même identifier la première personne qui avait dit ça? Dans quel contexte il l'a dit? Il a été choqué par quoi? Qu'est-ce qu'il a vu dans sa famille pour arriver à dire ça? Parce que c'est parti de génération en génération. Nous, on a trouvé ça. Depuis nos ancêtres, on nous dit, moi, si atonga kambo kate. Ça vient de quoi? Est-ce qu'on lui avait donné des briques pour kotonga mboka ya kotonga, dans le sens de bâtir? Ou c'était un autre kotonga? Donc tout ça, on doit comprendre. Alors, ici, moi, je dirais que c'est vraiment un discours à bannir de notre société. C'est un discours de haine, de injurieux d'abord, parce que quand tu dis ça à une femme, c'est une façon de
l'insulter.
De l'insulter. Et aussi discriminatoire, parce que tu veux mettre la femme à l'écart. C'est ça l'objectif. En fait, tout ce que vous voyez, tous ces adages ici, ces proverbes, des mois, c'est à ton akambo kate, koliana moi si koliana ndoki, tout
bah, ça. Bah, si balingana kate, voilà. Les femmes ne s'aiment pas entre elles, elles sont misogynes, tout
les
ça.
Les femmes ne s'aiment pas entre elles, tout ça. Donc, on veut à tout prix écarter la femme. Alors, ne cédons pas. Je m'adresse et aux femmes qui sont ici et aux hommes genrés. Je sais qu'il y en a beaucoup maintenant. Les hommes genrés, vous êtes là.
Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même, les hommes genrés? Merci.
Donc, je vais finir par dire qu'il faudrait faire à ces niveaux ici, surtout pour vous les dames, quand tu es devant quelqu'un qui te dit ça, que ce soit un homme ou une femme, commence par refuser ça et lui faire voir que non, c'est faux. Comment tu peux dire que moi, c'est ton akambokate? S'il a des arguments, qu'il avance et que toi aussi, de ton côté aussi, tu avances tes arguments. Alors, je vais finir par comment surmonter les obstacles, ces peurs pour les femmes, tout et tout. Je veux dire, pour moi, la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est ce que j'ai dit dès le départ, l'autocensure. Ne quittez pas les réseaux sociaux parce que vous vous sentez harcelé. Faites un effort. Dénoncez s'il le faut. Ne vous taisez pas. Dénoncez.
Même si on vous insulte.
Dénoncez. On l'a vu ici. On a eu un gouvernement où, parce que une femme, on est parti même chercher dans l'université pour voir si cette faculté-là existait. Parce que seulement on voulait faire voir que c'est une dame qui n'a pas étudié. On ne s'est pas focalisé sur ce qu'elle peut faire, sur son plan d'action, sur son programme. Mais on a dit non, elle a menti, elle n'a pas étudié. Les gens se sont donné cette énergie, cette peine. Ils ont mis même des moyens en jeu pour aller vérifier dans une université, voir si cette faculté-là existe. Et on dit non, en cette année-là, la faculté-là n'existait pas. Voilà à quel point on peut harceler quelqu'un, on peut... Je ne sais pas comment appeler, mais j'avais vu que c'était vraiment, si on pouvait mettre toute cette énergie aussi pour défendre certains droits, on serait déjà très loin. Mais on a fait des campagnes et des campagnes pour déstabiliser la personne. Dieu merci, c'est une brave. Elle n'a pas cédé, elle n'a pas quitté les réseaux sociaux. Donc moi, je dirais non à l'autocensure. Vous continuez, même si on vous insulte. Sachez que déjà, quand vous êtes femme, vous parlez en public, on va vous qualifier. Quand vous êtes femme, vous êtes sur les réseaux sociaux, on va vous qualifier. Quand vous êtes nommée, non, ce n'est pas sa tête, c'est ses formes. Ce n'est pas sa tête,
c'est la copine de tel
voilà.
Ou de tel.
Voilà. Et pour les hommes, on n'essaye pas de trop réfléchir. Donc, pour rien au monde, n'abandonnez. Si vous avez un objectif, si vous avez une vision, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, n'abandonnez pas. Merci.
Merci Madame Léa, Madame Charlotte Sylvie Songue. Merci d'applaudir, de l'encourager. Avec vos applaudissements, émission Capi Service, nous parlons du féminisme en RDC, défis politiques, culturels et médiatiques, avec Baloba Kitchek, Madame Sylvie, Charlotte Sylvie Songue.
Voilà, par rapport aux différentes préoccupations qui ont été soulevées, je vais lier la première préoccupation et la dernière, comment renforcer les synergies et comment ôter les obstacles. Parce que, comme on l'a dit, les synergies existent déjà, les organisations existent. Mais le problème, c'est quoi? Les obstacles sont beaucoup plus personnels que extérieurs. On s'auto-censure, on trouve qu'on ne sait pas bien parler, on trouve qu'on ne sait pas quoi dire, on n'a pas d'idée et qu'on sort. Pourtant, la femme gère la maison, n'est-ce pas? Et la maison est la chose la plus difficile à gérer. Parce que, en tant que femme, j'ai été jeune, je me suis mariée, j'ai des enfants et je travaille. Vous voyez? Gérer un foyer et garder son travail, ce n'est pas facile. Donc, les femmes doivent arrêter d'attendre toujours qu'on les tienne par la main. Tant que tu as déjà les deux pieds, il faut que tu mettes un pied devant l'autre pour t'avancer. Et tu peux aller vers les autres. parce que les organisations existaient déjà. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de limite. Tu peux contracter qui tu veux, qui tu trouves bien dans son domaine de travail et chercher des partenariats avec la personne pour te renforcer, pour apprendre. Parfois, on veut le profit, alors que même le bénévolat, le volontariat, peut vous amener à apprendre beaucoup de choses. On ne vous paye pas un salaire, mais vous apprenez le travail. Et après, le travail que vous avez appris va vous ouvrir les portes des gros salaires. Donc, les obstacles sont externes, mais il y en a beaucoup à l'interne. Ça m'amène à parler de la deuxième question des quotas. Vraiment, qui court des rues pour ramasser des gens et les amener dans son entreprise? Personne. Nous devons avoir des compétences. Nous devons avoir des connaissances, des qualifications qui peuvent aider à faire le travail. Quand on fait la discrimination positive, cela veut dire qu'on s'est rendu compte que le type de personne qui est là est déjà suffisant. Maintenant, on veut un autre type. Et donc, on promeut l'entrée de ce nouveau type de personne qu'on veut. C'est ça la discrimination positive. Mais quel que soit le cas, chacun de nous doit s'armer. Chacun doit s'armer de diplômes, de connaissances, de compétences. Même si tu n'as pas de diplôme, tu dois chercher à avoir la compétence. La compétence, c'est connaître, faire quelque chose.
D'accord. Merci, Madame Charlotte. On me fait signe qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va clôturer pour cette première partie de ce programme. On va prendre monsieur parce qu'il a... On prend juste deux questions, bon, trois, et puis voilà, les panélistes vont répondre et puis on va passer à la deuxième partie. Bonjour, monsieur.
Bonjour, je suis Daniel Baouna, journaliste et puis membre du collectif des fact-checkers de la RDC.
Quel collectif?
Collectif des fact-checkers de la RDC.
Ok, fact-checker.
Oui. Je voudrais d'abord mettre un mot par rapport à ces concepts, féminisme. Parce que moi, je pressens comme si la femme se victimise du jour au lendemain. Et j'ai trois questions. La première, elle s'adresse à Madame Sylvie. Elle a dit qu'il y a des opportunités qui sont refusées à la femme. Et moi, je me pose la question, quelles sont ces opportunités-là qui sont refusées à la femme? Parce qu'aujourd'hui, nous avons même une première ministre. Et ma deuxième question, elle s'adresse aux deux autres panélistes. C'est quoi l'objectif précis du féminisme? Vous parlez de l'égalité. Quelle égalité vous faites allusion? Et la troisième, c'est par rapport à notre culture. C'est quoi la place de la culture bantou dans votre lutte, dans votre lutte pour le féminisme?
Merci, monsieur. Dernière question. On prend une dernière question. Désolé, monsieur à côté. Rapido, rapido, rapido.
C'est quoi la question? Bonjour, je suis Fidèle Songo, journaliste et membre du collectif des fact-checkers. Bon, l'ami a brossé ma question. Je voudrais m'adresser particulièrement à Madame Elsie, l'auteur qui a parlé sur le féminisme. D'abord, nous savons très bien que le féminisme, bon, à vous entendre parler, j'ai compris comme si le féminisme était un combat universel, qui devrait être universel. Mais par rapport à nous, Congolais, vous savez très bien qu'en RDC, notre communauté a un strict respect des us et coutumes. Je donne un exemple de chez moi. Une femme ne peut pas manger.
Chez vous, c'est où?
Chez moi.
Chez toi là, chez c'est
moi,
où?
Dans le fond de Lodja, faire fond de Lodja.
Ah, Lodja, c'est dans les sangs.
Le torse, oui, le torse. Okay. D'un animal. Ça, il y a des, ça c'est des internes. Maintenant, comme vous êtes féministe, vous dites que non, nous sommes féministes. Vous allez en manger, vous allez trouver, vous allez peut-être vous retrouver avec des conséquences que les ancêtres ont déjà minées. Répondez-moi un peu par rapport à cela.
Merci pour la question. Madame, ici.
Je voulais, avant de prendre la précédente question, commencer par sa question. Le féminisme, comme j'ai dit tout à l'heure, ne vise pas à faire une rupture de nos cultures, nos traditions, en fait. Mais on lutte contre tous ces us et coutumes rétrogrades. Ça veut dire ceux qui visent à réduire la femme, à détruire la dignité de la femme, en fait. À réduire la femme à un objet juste sexuel, en fait. C'est contre ce genre de tradition que nous luttons, en fait, sans pour autant essayer de bannir, de détruire nos traditions. Je l'ai dit tout à l'heure et j'étais vraiment assez claire par rapport à ça. Je donne un exemple. Tout dépend de qui. Bon, par exemple, chez nous à Maïndo, mais pour être clair, mon père me disait toujours que les femmes ne mangent pas... Non, pas les torses. À Maïndo, mais ne mangent pas... Comment, je ne sais pas... Pas Jésus, j'ai oublié. Les serpents, par exemple, oui, on nous dit on ne mange pas ça. Ben moi, j'ai dit, bon, j'étais déjà radicale depuis mon jeune âge. J'ai dit à mon père, en tout cas, moi, je vais en manger. Et en tout cas, j'ai fini par manger et j'ai contaminé aussi les autres. Donc, ça dépend. En fait, moi, j'ai compris qu'avant, il s'agissait de cette question de l'égoïsme et le système patriarcat, on cherchait à priver certaines nourritures, certaines viandes qui étaient bonnes, pour on essayait de priver
ça. Merci beaucoup. Non. Madame Léa, rapidement, on est presque à la fin. Madame Léa, vous n'avez que quelques secondes
pardon,
depuis
pardon,
madame.
Pardon, il insiste un peu sur sa question, pardon, s'il vous plaît. Oui. L'objectif du féminisme, en fait, comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ce n'est pas une lutte contre les hommes. C'est comme on dit, ta tante est sorcière. Tu ne luttes pas contre ta tante, tu luttes contre l'esprit qui est en ta tante, qui dérange ta tête, qui pousse ta tante à te combattre. Donc, nous ne luttons pas contre les hommes, nous luttons contre le système patriarcal qui pousse les hommes, certains hommes, à nuire aux femmes. Donc, c'est juste ça. Merci.
Madame Léa.
Oui, par rapport à l'objectif précis, c'était d'abord de dire, on veut d'abord que ça soit clair que le féminisme, c'est pas une imposition occidentale et on ne veut pas à tout prix que le féminisme remplace les valeurs de notre culture. Mais par rapport aussi à la culture bantoue, en fait, on commence à tout mélanger parce qu'on parle féminisme, on voit des femmes aigries, des contre-mariages, des femmes insoumises, des femmes qui ne peuvent pas même se marier, non? Donc ce mouvement-là, parfois, vous allez voir que beaucoup de femmes, elles sont féministes, mais ce sont des femmes mariées, elles mènent une vie de famille. Et à ce niveau-là, il faut savoir aussi que tout, dans chaque couple, chaque couple a sa façon de fonctionner. Donc, un homme peut se décider de faire des petites lessives pour sa femme, mais ce n'est pas dit que c'est parce que la femme est trop féministe, elle veut les dominer. Un couple peut s'entendre que non, cette semaine, chaque week-end, c'est mon homme qui prépare, par exemple. Donc, vous n'allez pas dire, quand vous allez dans ce couple-là, non, vous voyez, c'est parce que la femme, elle ramène l'occidental dans son foyer et elle veut que l'homme perde ses valeurs culturelles. Donc, nous disons encore une fois de plus que le féminisme ne vient pas enlever nos valeurs, ne vient pas à tout prix déraciner ce qu'on avait déjà. Et cette histoire des viandes et autres, c'est un faux problème, parce que si ça doit s'éprouver sur le plan médical, de la médecine, que voilà, par rapport à tel organe de la femme, elle ne peut pas manger ça, je suis d'accord. Mais si c'est juste par égoïsme patriarcat, où les papas trouvent que les bons morceaux, il faut garder pour eux et non donner aux femmes, là, je ne suis pas d'accord. Merci.
Bien. Merci beaucoup. On va terminer avec Madame Charlotte Sylvie Songhe. Rapidement, vous n'avez que quelques secondes, on va passer à la deuxième partie.
Oui, les opportunités sont nombreuses qui sont refusées aux femmes. Mais je continue à dire que chaque femme doit plutôt faire prévaloir ses compétences. et il faut donc chercher ses compétences. Par exemple, est-ce que vous avez un président de la République qui est femme? Vous avez... Non! Je parle de président. Pas encore, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore accessibles à la femme. Nous avons déjà une première ministre, c'est très bien. Alors, les accords de Doha et de Washington, il y a combien de femmes qui sont là-dedans? Non, elle est ministre. Elle est là parce qu'elle est ministre. Mais elle n'est pas dans l'équipe des négociateurs. Tu vois? Pourtant, les premières victimes des crises et de la guerre, ce sont les femmes et les enfants. Mais quand il faut négocier ces choses, elles ne sont plus là. Voilà une des opportunités dont je peux parler. Et je laisse de côté toutes les autres opportunités que nous tous nous connaissons et qui ne sont pas toujours accessibles. Mais moi, je continue à prôner la compétence. Ça peut nous donner plus d'opportunités.
Mesdames et messieurs, aidez-moi à encourager les panélistes, Madame Charlotte Sylvie, merci, du BCNDUH. Merci d'applaudir aussi pour Madame Léa Ochudi de Balobaki Tchèque. Aidez-moi aussi à encourager Madame Messi Lotendo, coordonnatrice du mouvement féministe Bissau-Bassi. Téléma. Bien, on va suivre les informations tout à l'heure sur Radio Capi. On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On est ensemble.
Radio Okapi, Okapi.
Okapi Service.
Jody Daniel Kachama.
Okapi.